Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure donc de votre émission Info Club Sandwich sur Radio Campus Amiens. Aujourd'hui, pour cette première émission de la semaine, je vous propose un programme spécial consacré à la fête de la radio. En effet, aujourd'hui, lundi 31 mai, nous fêtons le centenaire des premières émissions de radio sur les ondes hertziennes depuis le site de la Tour Eiffel, ainsi que donc les 40 ans des radios libres, c'est-à-dire la fin du monopole d'État sur la radiodiffusion. Dans le cadre de cette journée, je vous embarque donc à la découverte plus particulièrement d'une radio libre, Radio Amiens, qui a été créée en 1981. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Lebon et Jean-Michel Henniquez. Bonjour.
Bonjour.
Vous signez tous deux l'ouvrage Radio Amiens, un modèle pour l'histoire des radios libres, paru aux éditions Les Soleils Bleus. François Lebon, vous êtes donc juriste et historien et vous avez été vice-président de Radio Amiens. Et quant à vous, Jean-Michel Henniquez, vous avez dirigé la Providence à Amiens et vous êtes également commissaire d'exposition et présidé un collectif d'artistes plasticiens. Déjà, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter dans les grandes lignes assez rapidement l'histoire de ces radios libres-là, comment elles ont émergé peu à peu et surtout nous décrire peut-être l'atmosphère un peu dans ces radios dans les années 70-80?
Bon, on va essayer d'être assez rapide. On est dans un contexte très particulier qui est issu des années 60, c'est-à-dire du moment de la guerre au Vietnam, de la contestation aux États-Unis, des radios là-bas se sont créées. La jeunesse est sensible à ces grandes questions internationales. Petit à petit, elle est gagnée par ce goût de la radio, parce que des radios libres se sont créées du côté des Britanniques avec Radio Caroline, navire qui est au large et qui émet quotidiennement, qui était écouté en France aussi, parce qu'ils diffusent la musique qui convient à cette époque. Baladé de Jimi Hendrix jusqu'à Simon & Garfunkel, etc. etc. Donc, contexte musical, envie d'entendre des choses nouvelles parce que les radios d'État ronronnent. C'est le sentiment général. En 1968, on dit « La France s'ennuie », c'est le rédacteur au chef du Monde qui dira ça. Ce sera l'explosion quelques mois après. Bon, alors, 68 intervient là-dessus, renforce ce sentiment de liberté d'action, parce que les deux vont de pair, ça se gagne aussi, une liberté. Et petit à petit, vont se créer des radios qui sont des radios de lutte. On a Lorraine Cœur d'Acier qui vient aider les sidérurgistes en difficulté, ça c'est un mouvement qui va être épaulé par la CGT. On a, avec Brice Lalonde, des radios écologistes, et ainsi de suite. Qui fait que petit à petit, des radios s'installent sur la bande FM de façon tout à fait illégale, mais rencontrent de l'intérêt parce qu'elles sont locales et qu'elles parlent directement aux gens de ce qu'ils vivent. Ce qui fait que nous, on va participer de cette affaire. C'est un noyau de type qui, soit par les études, soit à l'occasion de mai 68, fonctionnait ensemble. Et l'idée vient quand même qu'il faut rentrer dans cette affaire de liberté d'expression, parce que beaucoup d'entre nous sont des juristes, on estime que là, on est sur un point essentiel. Donc on va créer ça, mais on le fait pas tout seul. Immédiatement, on va avoir des quantités d'associations, lourdes ou pas, j'entends par lourdes, par leur nombre d'adhérents, la Fédération des Maisons de Jeunes et de la Culture va adhérer à Radio Amiens. Mais on aura les crématistes de Picardie qui vont adhérer. Quand on dit adhérer, je préférerais dire s'associer à Radio Amiens. Parce qu'adhérer, c'est adhérer à quelque chose de bien particulier, c'est adhérer à une idéologie, adhérer, s'associer, c'est-à-dire parce qu'ils ont eu aussi l'envie de dire des choses, ils sont venus nous rejoindre, et ils ont eu des créneaux horaires et ont pu se faire entendre, dialoguer avec les populations. Grosso modo, au fil des temps, la radio va couvrir entre la ville et roi, en quelque sorte, donc évidemment avec le pôle central sur l'agglomération d'Amiens. L'ambiance est tonique, je parle des premières années, on pourra faire des nuances par la suite. Tonique parce que il y a de l'enthousiasme, il y a beaucoup de gens très différents par l'âge, par les fonctions, par les idées, et tout ça s'entend et réussit à faire fonctionner cette radio libre.
J'ajouterais peut-être que techniquement, les Italiens nous avaient précédés et que beaucoup du matériel est venu pour beaucoup de radios libres en France d'Italie.
Il y a un terme qu'on entend aussi de temps en temps quand on fait référence à cette période, c'est le terme de radio pirate. Est-ce qu'il y a un lien entre ces radios libres et ces radios pirates? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que ça renvoie à des réalités un peu différentes?
Bon, je pense que l'idée de radio pirate est venue certainement de Radio Caroline, d'un navire en mer qui s'oppose à la BBC et aux institutions, donner ce sentiment de piraterie des ondes, en quelque sorte.
Avec un drapeau,
oui,
avec un drapeau pirate,
à tête de mort, voilà, etc. Après, on est passé à des radios terrestres. Alors là, l'enjeu était un peu différent parce que ça permettait des actions immédiates de la part des pouvoirs publics et ils s'en sont pas privés. Hein, quand on se place à la veille des élections de 81, là, les chiffres sont tout à fait officiels. On a plus de 400 saisies de la justice par TDF, si ma mémoire est bonne. Donc, ça se joue autrement. On n'est plus dans un rapport, non pas de piraterie, mais de désobéissance à l'autorité qui veut maintenir le monopole du service public. C'est-à-dire que l'État doit contrôler tout ce qui se dit sur les antennes. Difficile à comprendre, on voit très bien où est son intérêt.
Avec quand même aussi, parce qu'on peut l'évoquer, les radios dites périphériques. Ah, tu peux peut-être en dire quelques mots, oui.
Oui, les radios périphériques ont joué un rôle. Les radios périphériques, c'était celles qui étaient installées, qui avaient leur centre de décision à l'étranger. C'était le cas de Europe 1 qui était en Allemagne mais qui avait un bureau à Paris. C'était évidemment le cas de Radio Luxembourg, RTL, qui était sur le Luxembourg. Bon, il y a eu d'autres expériences du côté de l'Italie. Pourquoi ça a été intéressant? Parce que elles ont fait un boulot qui a interpellé beaucoup tout le monde. Au moment des événements de 68, elles ont été très présentes sur le terrain. Donc très critiquées évidemment par la sphère politique, particulièrement de droite, et on s'en doute. Mais elles ont fait du terrain, c'est-à-dire qu'elles étaient à chaud sur les événements où ils se produisaient. Et d'ailleurs, ça avait inquiété les autorités, qui disaient, ces radios, finalement, elles renseignent les gens qui sont sur les barricades, donc il faut les faire taire, c'était ça l'idée. Alors que là, c'était une autre conception de la radio, une radio qui est en prise directe sur l'événement, avec les gens qui font l'événement.
Des problématiques qu'on a retrouvées dernièrement, par exemple avec les gilets jaunes la police évoquait les informations qui étaient qui passaient par le net hein, d'une façon très générale
au tréfait qui se traduit lorsque on entend les critiques quand il y a une manifestation ou autre, lorsque des gens filment ou lorsqu'une télévision envoie des images, on associe le fait d'envoyer les images à un soutien à telle ou telle tendance. Bon, là, on est sur une réflexion plus large qui n'a pas disparu. Alors donc, à l'époque, ces radios dont on parlait tout à l'heure ont joué un rôle en incitant au renouvellement. Et une fois passé mai 68, dans les années qui ont suivi, on est revenu à ce ronronnement, je sais pas moi, un peu à la Drucker, quoi,
Alors justement, ces radios apportaient comme revendication la fin du monopole d'État et la liberté d'expression sur les ondes. Comment est-ce que ça s'est passé au niveau des différents gouvernements, que ce soit De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, qui justement ont interdit l'émission de ces radios-là jusqu'en 1981, où elles ont été tolérées par le gouvernement Mitterrand? Comment est-ce que ça s'est passé? Vous avez parlé d'arrestation tout à l'heure dans le cadre de certains studios radio, de Radio Libre.
Il était clair que l'idée qui dominait, c'était celle du monopole d'État. Pas de problème, évidemment, avec De Gaulle, Pompidou, on est là à fond sur cette question. La France évolue, change un peu, on sent que la gauche va progresser. Giscard, en 1974, si ma mémoire est bonne, est élu et maintient cette position, monopole d'État. À la veille des élections de 81, la gauche risque de passer, je dis ça, puis elle passera, mais on le pense, et tout doucement, l'idée vient à gauche que on pourrait tolérer de ces radios, entre guillemets, libres. D'ailleurs, ils évacueront le mot libre, parce que ça sous-entendait que celle qui était d'État ne l'était pas. C'était un peu l'idée qui courait. Donc, ça deviendra les radios privées. Alors, si vous arrêtez, moi, je conteste aussi cette appellation-là. Donc, à partir de là, on sait que la gauche tolérera les radios libres. Sous quelles conditions, on verrait. C'est un des points de Mitterrand. Vous savez, il avait fait 110 propositions et des radios libres sont une des propositions. Alors, les élections se feront et là, va se jouer une autre histoire des radios libres parce que ça va provoquer une éclosion fabuleuse, hein. C'est d'un seul coup, des radios vont fleurir quasiment dans tous les coins de France. Je crois qu'il y en a plus de 2000 qui vont se créer. Il n'y en a pas autant qui vont rester d'ailleurs, hein. Voilà à peu près l'ambiance. Alors les radios sont lancées à partir de là.
Et donc c'est le cas de Radio Amiens justement qui s'est créé en 81.
Radio Amiens, oui. On avait démarré en 80, on avait discuté un peu avant. Et on est déjà lancé hein, quand les élections se produisent et évidemment on va tourner à plein régime avec plus de facilité en sachant que d'autres questions vont se poser automatiquement. D'abord, première affaire, c'est l'engouement. Ça a été assez fabuleux l'ambiance qu'il y a pu y avoir dans les studios qui a fait à l'époque qu'on était avec les Jacobins.
Vous étiez nombreux?
Oui, pour avoir fait la radio, pour avoir lancé la radio, il y avait le fondateur, ça devait faire 9 personnes, il y avait 6 cooptés, il y avait des associations, des grosses associations, on touchait du monde, hein, surtout, on a été, c'était l'enthousiasme, parce que bon nombre de gens, soit à titre individuel, soit des associations, venaient nous voir à tout moment, on est venus quasiment une joie de la nuit, qui a eu une certaine ambiance. On était rue du Jacobin, dans les locaux de la Fédération des œuvres laïques, qui avait bien voulu nous prêter une pièce qu'on a transformée en studio. Et c'était un grand escalier qui menait vers le studio et qui était en soirée, plein de gens assis dans tous les sens et dans tous les coins, prêts à intervenir à la radio, en tout cas qui discutaient entre eux, ce qui donnait un peu un bruit de fond de temps en temps à l'antenne, mais ça faisait partie du jeu quand même. Donc l'ambiance était étonnante, et petit à petit quand même se posera la question du fonctionnement de la radio, le problème de l'élargissement, il fallait trouver d'autres lieux pour qu'on réponde aux attentes, enfin, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Nous n'étions pas, comme disait la droite, une radio de sous-pente. Il fallait s'implanter pour satisfaire les demandes qui étaient fortes localement.
Donc la ligne éditoriale, à la base, c'était une radio donc, d'information locale et associative, c'est ça?
Oui, c'est une radio associative. Je crois qu'il faut de gens qui s'associent pour faire quelque chose. Ce quelque chose, c'était parler de ce qui se faisait dans une agglomération et dans la périphérie avec un ton, avec une liberté de ton surtout. et qui a, ça a convaincu beaucoup de gens. Si on a l'occasion d'en parler, on pourra en citer bon nombre, qui d'ailleurs sont restés des gens sensibles à la radio, à la communication, etc.
Vous parliez quantité, on peut penser à 200 personnes à peu près qui naviguaient autour de la radio, puis à peu près une centaine d'associations et des grandes fédérations. Donc c'est vrai que ça regroupait tous les milieux culturels et sociaux hein, de l'ensemble de la, on dirait maintenant, de la métropole.
Oui, on avait par exemple, je parle d'une association, la Fédération des œuvres laïques. C'était à l'époque, ça touchait beaucoup de monde en tout cas. Mais il y avait la Fédération des droits de l'homme, la Fédération des maisons des jeunes et de la culture. Du côté des plasticiens, on avait le groupe CRAN. C'était un groupe actif, dynamique, avec des gens comme qui toujours travaillent sur dans les arts plastiques, hein, Patrice Roger, Marie-Claude Quignon, Dominique Grain, etc. Enfin. Donc, et puis, il y avait les gens de théâtre. On était très appuyés par les compagnies. Jacques Labarrière avait une chronique. Jacques Labarrière, c'était le théâtre du Carquois. Il a eu, il était metteur en scène, comédien. Il a vu passer bon nombre de gens qui sont aujourd'hui encore des comédiens chez nous, parce qu'il y a quand même 40 ans de passé. Hein, de... Mmh. Tous ces gens-là formaient un vivier extraordinaire. Sur la moindre question, sur le moindre événement qui se produisait, ils savaient qu'ils pouvaient venir, qu'ils auraient la parole, qu'ils pourraient s'entretenir avec un public local. Alors l'avantage du local, c'est il était double. C'est que si on pouvait venir à la radio et répondre, c'était presque ça quotidiennement, mais on pouvait rencontrer les gens en dehors de la radio, c'est-à-dire que des liens se créent, des participations, des actions se sont montées hors de nous, hein, mais on le savait parce qu'on voyait les gens. Donc il y avait tout ce foisonnement là, amical, intellectuel, entre des gens qui peut-être ne se seraient jamais rencontrés ou n'auraient jamais parlé entre eux, a été un moment très enthousiasmant.
En fait, la radio permettait aussi de créer un peu du lien social au niveau associatif entre les différents acteurs du territoire.
Ah oui, absolument. C'est très net. C'est-à-dire que les associations étaient ravies parce qu'elles sortaient aussi de leur, j'allais dire, leur cocon, non, parce qu'il y en a qui sont très actives, mais c'est pas toujours facile de gérer une association, de participer à ses actions et de créer en même temps des ouvertures vers d'autres possibilités d'actions conjointes avec d'autres associations. Ça se faisait. Hein. On a eu une forte dynamique autour de ça.
Jean-François raconte des fois des choses tout à fait amusantes entre une des émissions qui a duré le plus longtemps, qui était une émission catholique. Fin...
Ah oui, Maranatha. Oui.
Maranatha.
C'était une émission privée par l'évêché, a priori, et puis... une association chargée de communication.
Et c'était assez drôle de rencontrer dans les œuvres laïques donc des gens qui venaient parler hein, en fait. Oui. Donc c'était très ouvert. Hein. On évoquait avec Jean-François, on en parlait ensemble de la présence d'une émission qui s'appelait Homophonie. Donc on traitait déjà il y a 40 ans donc de choses qui restent tout à fait actuelles. Et puis, il y avait des émissions sur la médecine, il y avait des émissions très variées, et qui donnaient la parole donc à tout le monde, aux prisonniers en particulier.
C'était une émission très importante, Oxygène, avec oui. Dominique Caron, une avocate, qui fait un travail fabuleux en liaison avec la prison, c'est-à-dire que les familles des prisonniers pouvaient venir à la radio, s'entretenir en direct avec les prisonniers. Ça avait même agité à Paris le ministère, mais l'émission a perduré et était fantastique.
Les émissions avec des Italiens, les Portugais, la musique des Caraïbes, toutes ces choses étaient présentes et ont permis, Jean-Claude Madébar en parle assez souvent, ont permis de faire accepter les musiques qui maintenant semblent tout à fait naturelles à tout le monde et qui à l'époque visiblement choquaient encore un peu certains auditeurs.
je peux vous assurer que quand les Italiens de la Somme, c'était leur association, donc quand ils venaient faire leur émission hebdomadaire, il y avait une forte ambiance dans les studios.
Est-ce qu'il y a des émissions comme ça ouais, qui vous ont marqué? Il me semble que Jean-François, vous aviez votre émission d'ailleurs qui s'appelait Racine sur les ondes de Radio Amiens. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, c'était en appui avec une revue qui s'appelait Terre Picarde, que je dirigeais, et qui était aussi sur les mêmes principes. La revue comme l'émission.
C'était art, histoire et tradition.
Et en fait, une ouverture sur ceux qui faisaient quelque chose, quel qu'il soit. Et entre autres, je peux citer l'exemple avec Bruno Bréard, qui était conservateur du patrimoine, etc., qui a fait une très belle carrière d'ailleurs, qui était quelqu'un de fidèle dans l'émission et qui a su faire passer un intérêt pour la préhistoire, pour son histoire et son développement des recherches en Picardie. Lui-même reconnaît que ça a été un moment tout à fait exceptionnel pour la préhistoire. C'était l'occasion pour elle de se faire entendre, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas souvent d'écho quand même sur cet aspect des choses. Ah oui, non, les émissions étaient...
Mais sur le gris aussi, donc il faut parler.
Ah, oui, ça c'est... Alors là, on est dans le domaine des émissions politiques. Là. C'est-à-dire que toutes les semaines étaient invitées... une personnalité locale, diverse, toute tendance passée évidemment dans cette émission. C'était ouvert aux auditeurs. On avait d'excellents animateurs qui... Alors, il y a eu aussi bien des professionnels. On a Hubert Delarue, par exemple, qui est avocat avec, son compère Bouillot, qui était lui-même qui est avocat. On a eu... des animateurs comme Dominique Théo, Georges Charrière, qui sera journaliste. Tous les deux ont fait un très gros travail au sein de la radio, à la fois de réflexion sur ce que nous faisions et d'émission. Ils avaient en charge cette émission sur le gris, et ils avaient en charge aussi les périodes d'élection, lorsqu'il y a eu des municipales, etc. Quoi. Ce qui n'était pas facile à mettre en place, mais on a eu. Et on a les témoignages, une reconnaissance de toutes les tendances, nous disant que le job avait été fait. Quoi. Ce qui, pour une radio libre, n'était pas si simple. Il fallait un peu de moyens pour organiser ça. Alors là, c'est là où il faut quand même que je précise que nous sommes entrés en association avec le Courrier Picard. Chacun était maître chez soi, mais le Courrier Picard nous a hébergés. Nous avons eu à ce moment-là des studios beaucoup plus grands. Il y a une partie des locaux du Courrier qui était disponible, disons. Nous avions notre entrée propre, des locaux que nous gérions, avec la facilité d'un passage vers le Courrier lorsqu'il y en avait besoin, mais pas de collusion entre les lignes éditoriales, pas de querelle d'autorité, rien, chacun pouvait agir comme il l'entendait, et nous pouvions aussi avoir des actions conjointes. Ce qui était important, c'était intéressant d'avoir aussi pour une radio le relais papier qui permettait d'annoncer, de reprendre, de réintervenir d'une autre manière sur les événements qui avaient eu lieu.
On évoquait tout à l'heure la culture et le social, il y avait aussi le monde de l'entreprise, parce qu'il y avait une émission qui s'appelait « La somme des entreprises », qui était gérée par trois personnes, dont Stéphane Demilly, qui maintenant est devenu sénateur. Et donc, tous les chefs d'entreprise de la région sont venus parler, en fait, de ce qu'ils faisaient, des soucis qu'ils avaient, comme des bonheurs qu'ils pouvaient avoir. Et donc, finalement, en entendant Jean-François et en évoquant tout ce qu'on vient de dire, moi qui suis actuellement plutôt un auditeur de France Culture, j'ai un peu l'impression que tout ce que j'entends dans les styles d'émission était déjà présent dans les souhaits, là, vous parliez de ligne éditoriale de Radio Amiens.
À vous entendre, en tout cas, on note que la grille des programmes sur Radio Amiens était très très variée, qu'il y avait vraiment une grande diversité. Est-ce que vous pourriez du coup nous expliquer qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre sur l'histoire de Radio Amiens, parce que vous le publiez donc au Soleil Bleu, ça s'appelle Radio Amiens, un modèle pour l'histoire des radios libres, et vous retracez donc cette histoire qui s'est déroulée donc de 1981 à 1994, il me semble. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment vous est venue cette idée-là?
Il faut d'abord, la radio, effectivement, après 94, va cesser d'émettre, donc on va revenir sur toutes ces questions-là, mais on n'a pas disparu. Notre association de base, l'Association pour la liberté de la communication audiovisuelle, etc., a continué d'exister.
En fait, on se disait qu'il était peut-être nécessaire de... Alors, je n'avais pas passé le flambeau, c'est vite dit, mais c'est plutôt de participer à ce qui se passe aussi, comme faisait la radio, au sein des collèges ou des lycées. Donc j'ai pris contact avec le collège Arthur Rimbaud, dans lequel il y a toujours animé par Alexis Latré, un professeur de mathématiques, donc des élèves qui se forment à tout ce qui est communication et en particulier radio. Et donc une de nos AG a eu lieu là-bas. Les élèves ont été invités aussi au moment où le livre est paru. Donc on avait fait une AG, on va dire, dans les studios du Courrier Picard. Et donc les élèves étaient invités. Donc on conserve cette action auprès de la jeunesse de façon à leur montrer, à leur dire aussi ce qui s'était passé, dont un aspect témoignage. Et puis un aspect pour les épauler et puis les conduire éventuellement à ça, il y a des projets autour de ça, les faire découvrir des grands médias, puisque certains de nos partenaires de l'époque, je pense à Marie-Pierre Planchon qui a participé à la radio,
donc qui est à France Inter.
Et qui est à France Inter maintenant. Je pense à François Dufour qui est
rédacteur en chef adjoint de FR3.
Donc en fait, donc tous ces jeunes vont aller ou ont été, je crois qu'ils sont allés dans vos studios, il me semble, aussi à un moment donné. Voilà, donc beaucoup de choses autour de la jeunesse. Mais je voulais préciser, puisque vous nous demandiez les raisons aussi du livre, alors en tout cas, il y a une raison principale, c'est qu'on ne voulait pas être nostalgique, on voulait témoigner d'une époque et on voulait décrire un peu les évolutions, je dirais, économiques aussi, de ce qui a pu se passer pour les radios libres, de façon à éclairer aussi ce qui se passe actuellement. Je pense aux télévisions locales et puis à d'autres médias encore plus larges. Et donc, c'est sous-titré, vous l'avez remarqué, un modèle pour l'histoire des radios libres. Oui, Jean-François veut évoquer quelque chose à ce niveau-là.
Y compris sur le rôle que peuvent avoir les radios libres aujourd'hui, une radio comme la vôtre, hein, soyons clairs. Lorsqu'on voit les affaires de Notre-Dame-des-Landes, etc., une radio libre s'est immédiatement créée, qui a couvert les événements à chaud et pour tous ceux qui étaient impliqués dans l'affaire. Je vous rappelle, c'était l'histoire de la construction d'un aéroport du côté de Nantes. C'est le rôle de radio libre n'a pas disparu, parce qu'il y a son immédiateté, sa proximité avec les auditeurs, la possibilité de créer des regroupements. Donc il faut garder dans le panel de ce qui peut se faire aujourd'hui l'idée que les radios libres, ça ne disparaît pas.
Vous considérez qu'il y a une forme de continuité en fait entre les radios associatives aujourd'hui et les radios libres dans les années 70-80, tant au niveau des contenus qui sont diffusés à l'antenne que des enjeux auxquels elles font face?
Je crois que le contenu participe de leur crédibilité. Les enjeux doivent les intéresser au plus fort. C'est-à-dire que ce côté d'accès immédiat de la parole à une auditorat plus large, proche, qui peut réagir, me semble essentiel, moi encore. Et on n'a pas ça avec les chaînes de télévision, même locales, ou avec des radios nationales. Ça n'a toujours pas bougé. D'ailleurs, il y a une grande enquête qui a été lancée sur les radios d'État, les radios France, sur son devenir, que devait-elle faire, comment pouvait-elle bouger, parce qu'elle est en train de, soyons un peu injuste, mais elle est en train de ronronner un peu à nouveau. Bon, je ne donnerai pas d'exemple, à vous d'écouter ce qui se passe chez eux, mais vous avez autre chose à faire, parce que vous êtes une radio libre et que c'est vous qui initiez.
Bah, merci beaucoup à vous deux.
Je vous en prie.
Merci à vous.
Jean-François Lebon et Jean-Michel Niquez, vous signez donc tous deux l'ouvrage Radio Amiens, un modèle pour l'histoire des radios libres, paru aux éditions Les Soleils Bleus donc l'année dernière. C'est un ouvrage qu'on peut retrouver en librairie et sur internet et qui retrace donc l'histoire de cette radio qui est émise sur Amiens de 1980 à 1994. Et puis vous retracez aussi dans cet ouvrage aussi plus largement l'histoire des radios libres au cours de cette période. Merci encore à vous deux. C'est la fin de cette émission spéciale à l'occasion de la fête de la radio. On se retrouve demain à 12h et 18h comme d'habitude. À très vite sur nos ondes.